Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec le poète Karl Norak dans le cadre du festival Effraction, une rencontre organisée en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Bonjour Karl Norak.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Karl Norak, vous avez publié une dizaine de livres de poésie, de nombreux ouvrages pour la jeunesse et vous êtes, depuis le 29 janvier 2020, poète national belge. Qu'est-ce que ça signifie être poète national belge ?
Vaste question, hein. Donc c'est vrai que moi, il y a quelques années, la notion de poète national m'apparaissait à moi-même étrange, hein. Je vivais en France à cette époque-là. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pays qui ont un poète national. Pour le moment, aux États-Unis, c'est pour la première fois une Navajo qui est poète national, poétesse nationale. Et là-bas, d'ailleurs, ils sont élus par les bibliothécaires du pays. En Angleterre, par exemple, ça existe depuis la Renaissance sans discontinuer. Mais là, il y a encore une notion un peu bizarre de poète d'État. Donc, le poète national est censé peut-être écrire un poème pour la reine si la reine a une manifestation très, très particulière. En Belgique, ça existait autrefois. Émile Verhaeren, le grand poète symboliste, avait été poète national du fait du roi, hein, qui l'avait nommé ainsi. Aujourd'hui, ce sont toutes les maisons de la poésie qui se mettent autour d'une table, quelle que soit leur région et leur langue, et qui ont décidé de recréer un peu cette tradition aussi chez nous. Le but étant de, premièrement, d'avoir le regard d'un poète sur l'actualité, hein, c'est-à-dire que mes poèmes sont publiés donc très régulièrement dans la presse, la Libre Belgique, parfois dans le Soir ou dans la presse néerlandophone. Et alors, un autre but, sans faire de la politique, parce que les poètes quand même essayent d'être un peu au-dessus de la politique, et de rapprocher la communauté des poètes entre eux. Et là, par exemple, on va faire un grand voyage dans ce que j'appelle la volupté de la lenteur, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de notre immense pays sur une péniche où vont monter des poètes des différentes communautés, afin qu'ils aient l'occasion pour la première fois de se connaître, mais au rythme très lent de ce mode de déplacement, avec une petite signification quand même qui fait que une rivière n'a pas de frontières, elle a des écluses, elle a des murs sur les côtés, mais devant il y a des ponts et pas de murs. Hein, donc évidemment, ça peut avoir une signification politique qui n'est même pas cachée, mais qui n'est pas une volonté vraiment de faire de la politique, mais d'aller un peu au-dessus des murs qu'on nous impose.
Et c'est aussi ce que vous faisiez déjà avant d'être poète national, mais ça amenait la poésie aux gens. Vous évoquiez les journaux, ça laisse l'opportunité à des personnes qui n'achèteraient pas des recueils de poésie, qui ne liraient pas de poésie, de tomber dessus dans le journal et de s'y intéresser, ou en tout cas pour un moment, en tout cas le temps de la lecture, s'y plonger. Il y a vraiment cette volonté d'amener la poésie dans la rue.
Ça c'est le but premier, hein. C'est-à-dire que bon, la poésie existe dans certains cercles. Au bout d'un moment, d'ailleurs, assez rapidement, on est connu, mais dans une sorte de cercle privé ou de télévision en circuit fermé. Alors que la poésie, elle est destinée à aller vers la rue. La précédente poétesse nationale belge, Else Mors, par exemple, elle avait suivi toutes ces manifestations pour le climat, pour l'écologie, avec les jeunes en Belgique, pour reprendre sur les calicots de quoi alimenter ses poèmes. Moi, là, par exemple, je vais faire un spectacle avec 300 enfants qui vont chanter en deux langues. Et il y a deux des chansons, l'une où je reprends des phrases que je trouve sur les murs, à Paris d'ailleurs. Quand je me promène dans Paris, je note les phrases qui sont sur les tags. Hein, il est indispensable d'errer, que j'ai vu l'autre jour. Et alors, je vais demander aussi aux enfants d'écrire un poème sur leur façon de changer le monde, puisqu'ils sont censés être la dernière génération à pouvoir sauver notre planète. Et donc, voilà, aller ramener la poésie vers la rue, par tous les moyens possibles, mais aussi, évidemment, aller dans la rue chercher la poésie. Hein. L'autre fois, il y a une petite fille qui m'a dit « Toi, tu vis ta vie, alors après, tu prends ta vie et tu la mets dans ton poème, et c'est ça ton poème. » Je dis ben voilà, tu as trouvé la définition. La poésie, on rêve qu'elle court par les rues, hein, donc qu'elle ne soit pas à petits pas, hein, mais qu'elle puisse déferler un tout petit peu.
Et vous dites que l'amour de la poésie n'est pas forcément apparent, mais qu'il n'est jamais bien loin derrière, avec cet exemple notamment des ateliers que vous menez auprès d'adolescents qui ne lisent pas forcément de poésie, mais vous vous apercevez généralement au bout de deux séances qu'en fait, la moitié en écrit de la poésie.
Oui, c'est-à-dire, bon, maintenant j'ai moins le temps de le faire, mais j'ai été énormément vraiment dans tous les milieux, donc auprès des enfants, des adolescents, des adultes, dans les prisons, dans des écoles très très particulières, un peu partout. Et Souvent, d'ailleurs, au début, en particulier chez les adolescents, les enfants adorent la poésie, se battent pour être celui qui va venir en lire. Hein. Sauf que souvent, ils viennent et ils me disent « ça m'a fait du bien de t'écouter parce que je croyais que tu étais mort, en fait ». Pour eux, le poète, c'était quelqu'un qui vivait autrefois. Hein, d'ailleurs, je leur ai dit que j'ai un
peu... Autant d'antans.
Voilà. Ils m'ont demandé l'autre fois si j'avais écrit les fables de La Fontaine. Donc, j'ai dit de manière surprenante, il s'appelait La Fontaine, il les a écrits lui-même. Alors, ils me disent... Tu as un pseudo, nous a dit. Donc, Carl Perrault, c'est toi aussi. Je dis non, Charles Perrault, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a, il y a cette perception chez eux. Et chez les adolescents, souvent, quand je vais les voir, ils me disent on ne lit pas de poésie. Quoique maintenant, via le slam, etc., il y a un basculement hein, qui est en train de se passer pour le moment dans les années qu'on est en train de vivre pour le moment. D'ailleurs, je pense que quand un monde est en train de vaciller, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a un recours au poème. Hein. Moi, je le vois partout, hein, le poème revenir par rapport à ça. Mais dès que je suis un peu plus intime avec ces adolescents, que je les ai rencontrés une ou deux fois, ils me disent, on a un petit carnet secret, où quelquefois, hein, Cocteau disait, écrire un poème, c'est mettre sa nuit sur la table. Et bien, ils vont chercher leur petite part de nuit à eux, ou leur grande part de nuit, et ils essayent de la poser sur la table. Je vais vous raconter très brièvement une anecdote amusante avec des adolescents il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une fille qui arrive, elle me dit, une quinzaine d'années, elle me dit « J'ai la rage parce que vous rencontrez l'autre classe qui n'aime pas la poésie, alors que moi, j'adore la poésie et vous ne venez pas dans ma classe, alors je suis vraiment fâché. » Et alors, je lui dis « Écoute, moi, je vais te donner quelque chose que les autres n'auront pas. Hein, voilà, je leur ai lu quelques extraits d'un livre. Eh bien, toi, tu auras le livre, je te l'offre. » Et alors, elle me dit, « Ah, merci, mais qu'est-ce que je dois vous donner en échange ?» Alors, je lui dis, « Mais rien, la poésie peut être un don gratuit, un partage. » Elle me dit, « Non, ce n'est pas possible, attendez. Hein, » Et alors, elle fouille son cartable à la recherche de pour faire un deal, quoi. Et alors, après, elle sort quelque chose et me dit, « Une pomme, ça va ?» Et pour moi, bon, cette pomme était un poème. Hein, quand je l'ai mangée, je l'ai trouvée délicieuse.
Elle était bonne, ouais.
Et d'ailleurs, avec eux, quand ils me disent « définissons la poésie, c'est toujours l'arrêt de métro où vous ne descendez pas, c'est toujours cet oiseau qu'on essaierait d'attraper du bout des doigts, mais qui va vous échapper à la dernière seconde. » Moi, j'aime bien justement dire que la poésie, c'est ce qui ne peut pas être enfermé dans aucun tiroir. Hein, et que si on est poète national, c'est pour essayer d'avoir un petit contre-pouvoir aussi, voilà.
Justement, ces poèmes qui sont publiés donc dans la presse, pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas lu les journaux, vous pouvez retrouver bien évidemment tous ces poèmes en ligne sur le site poètenational.be où on retrouve ces poèmes. Je crois que vous nous en avez amené deux que vous allez nous lire pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblent, sonnent ces poèmes écrits dans le cadre de cette grande mission de poète national belge.
Alors, il y en a qui sont un petit peu durs. Là, il y a pas longtemps, j'ai écrit sur une petite fille qui est morte lors d'une poursuite un peu folle de migrants, hein, donc par une balle perdue de la police. La semaine dernière, j'ai écrit un poème pour une opération sur tous les handicaps de parole auprès des enfants. J'ai écrit un poème un peu paniqué. Lors de la nuit des élections américaines, où j'avais l'impression que ça allait basculer du mauvais côté. Mais là, je vais vous lire le premier poème que j'ai écrit pendant le premier confinement, donc à propos du coronavirus, mais en essayant de dériver sur une métaphore plus agréable. Un espoir virulent. J'ai attrapé la poésie. Je crois que j'ai serré la main à une phrase qui s'éloignait déjà, ou à une inconnue qui avait une étoile dans la poche. J'ai dû embrasser les lèvres d'un hasard qui ne s'était jamais retourné vers moi. J'ai attrapé la poésie, cet espoir virulent. Voilà un moment que ce clair symptôme de jeter les instants devant moi était devenu une chanson. Ne plus être confiné dans un langage étudié, s'emparer du mot libre, exister, résister, et prendre garde à ceux qui parlent d'un pays mort alors que ce pays, aujourd'hui, nous regarde. À présent, on m'interroge, c'était écrit. Votre langue maternelle ? Le souffle. Votre permis de séjour ? la parole. Vous avez chopé ça où ? Derrière votre miroir. C'est quoi alors votre dessein étranger ? Que les mots soient au monde, même quand le monde se tait. J'ai attrapé la poésie. Avec sous les doigts une légère fièvre, je crève d'envie de vous la refiler, comme ça, du bout des lèvres. Donc voilà, un petit poème qui parle du coronavirus, mais d'une façon décalée, hein, puisque le virus de la poésie, c'est quelque chose, évidemment, qu'on aurait envie de propager. Voilà, celui-là, on veut le propager. Et alors, voilà celui qui est paru il y a quelques jours, parce que j'avais pas envie de faire... J'ai dû faire un poème bilan de l'année dernière, vous voyez la difficulté, et en essayant de mettre un peu d'humour, d'ailleurs. Et puis, j'ai pas eu envie de faire non plus un poème de Nouvel An. Et donc, j'ai attendu le 1er février.
Nouvel An plus un mois.
Voilà. De voir, après janvier étant passé, comment est-ce qu'on bascule vers les 11 mois qui restent. Donc ça, c'est paru dans la Libre Belgique, donc il y a quelques jours. Table rase. L'année s'est immiscée et c'est nous qui devons la meubler d'un souffle. Faire table rase, disais-tu. Mais nous venons déjà de jeter janvier devant nous telle une fausse promesse. Un peu de pain se met au ciel en dessinant du regard un oiseau invisible. À la file, nous vaquons toujours au désordre. Cependant, nous entrons, en ces chemins contrariés, avec ce qui demeure de feu, d'immuable, en nos constructions d'allumettes, nos châteaux de sable, nos élans, nos précieux samizdats, nos résolutions. Pour exaucer nos rêves encombrés, demeure sur nos routes en ce matin de février le mot « espoir » qui traîne. Un espoir sans frémir, ni briller, ni falloir. Jusqu'où le pousserons-nous en nos maisons, coûte que coûte ? Nous le posons sur une table, puis sur la page à peine tournée. Avec ce mot-là pour emblème, nous pouvons au moins démasquer, loin de la gueule de l'emploi, deux lèvres entrouvertes au poème.
Dans les deux poèmes, c'est ça, dans les deux poèmes, le mot espoir, puisque vous êtes un éternel optimiste, donc ça correspond bien à ce mot, l'espoir.
Ben, je pense qu'on en a besoin, hein, ça c'est sûr. Alors bon, c'est vrai que j'ai fait des poèmes un peu plus durs, mais vous voyez, c'est ceux-là que j'avais envie de lire, parce qu'effectivement, il y a ce mot-là qui traîne, hein, sans briller, comme je le dis dans le texte, mais qui est là quand même derrière nos paravents et derrière nos inquiétudes. Oui.
Dans le premier poème que vous nous avez lu, il y a ces mots « J'ai attrapé la poésie ». Comment est-ce que vous avez attrapé la poésie en observant votre père écrire ?
Vous êtes très bien renseigné. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai attrapé la poésie très très tôt, hein, parce que l'image est un peu idyllique, mais elle l'est en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une enfance dans une cité très modeste, parce que mes parents viennent d'un milieu modeste, plutôt de bûcherons, de mineurs. Mais sont devenus tous les deux instituteurs. Mon père, Pierre Coran, est un poète fort connu en France, en Belgique et ailleurs. Il a deux écoles portent son nom en Belgique. Et ma mère est aussi était comédienne. Et donc moi, après, j'habitais dans une forêt. J'avais d'un côté mon père et j'observais sa main en train d'écrire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Journal de gestes, parce que pour moi, je ne peux pas être un écrivain comme ça. Moi, j'ai besoin de que la main parte faire son petit voyage ou son petit balai. Et donc, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que j'allais dans ma chambre et j'imitais le geste de mon père, mais comme je n'avais pas appris l'alphabet, je dessinais des vagues. Donc, c'était des poèmes lettristes vagues. Hein, donc, j'étais très vaguement poète.
La danse de la main.
Voilà, exactement. C'était la danse de la main. Et alors, j'entendais ma mère répéter ces spectacles de poésie. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment... Le virus, je ne pouvais que l'attraper, hein, parce qu'il était absolument partout. Et puis, évidemment, quand j'ai appris à lire et à pouvoir écrire moi-même, j'étais dans ce qu'on peut appeler une solitude heureuse, c'est-à-dire que vivre en forêt avec ses parents et sans avoir ni de frères ni de sœurs, ben on s'invente un monde et on part sur les chemins. D'ailleurs, moi, comme je suis venu vous voir, là, j'ai passé la nuit à Paris, j'ai écrit pendant plusieurs heures, parce que c'est toujours quand je suis loin de chez moi, en mouvement. Par exemple, dans un train, vous avez l'impression que la ligne du paysage va devenir la ligne de l'écriture. Il y a quelque chose qui n'est pas une pause chez moi d'écrivain voyageur, mais c'est comme ça que les mots me viennent. Voilà. Donc, c'est comme ça que se manifestent les symptômes de cette merveilleuse maladie de la poésie.
On va revenir sur la mécanique de l'écriture, mais j'ouvre juste une petite parenthèse, puisque tout à l'heure, vous évoquiez le pseudonyme avec les enfants qui cherchaient à savoir si vous en aviez d'autres. Peut-être un mot de ce pseudonyme, Karl Norak, puisque si on fait bien attention, Norak est l'anagramme de Coran, qui est lui-même un pseudonyme pris par votre père, puisque Pierre Coran a été un personnage avant d'être le nom de votre père.
Oui, ça peu de gens le savent, mais donc mon nom c'est Deleuze, donc en France ça n'a pas de connotation. D'ailleurs, bon, peut-être j'aurais pu le garder, mais les amis belges qui nous écouteront savent qu'évidemment c'est comme si je m'appelais Monsieur Leclerc ou Monsieur Auchan. Et donc quand on est enseignant, c'est pas toujours facile à assumer.
Ça se fait appeler Monsieur Magasin.
Voilà. Et alors, mon père, qui a beaucoup d'humour, hein, c'est ce fameux décalage belge qu'on apprécie plus en France, d'ailleurs, aujourd'hui, qui fait qu'un jour, il a dit « je vais prendre l'identité, puisque j'ai commencé par le roman policier, de la première personne qui a été assassinée dans un de mes livres. » Et il se fait qu'il l'avait curieusement appelé Pierre Coran. Et alors, son imprimeur, éditeur de l'époque, lui a dit « Mais monsieur, Coran, c'est extrêmement connoté. » Et il se fait que ce monsieur s'appelait Dieu, parce que dans le Borinage, la région de Mons, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Dieu. Alors, il dit, tu t'appelles Dieu, je m'appellerai Coran, restons-en là. Et mon père a écrit pas mal de poèmes en jouant sur les mots. Mon père est un grand jongleur de mots. Lui, d'ailleurs, pour écrire, ce n'est pas le voyage, c'est un silence matiné de chants d'oiseaux dans la forêt. Hein, quoi, il peut écrire sur la ville, mais il a besoin d'être dans cette connexion-là avec la nature, alors que moi, quand je suis à Paris, par exemple, je vais à un café juste à la sortie du métro de Belleville, où il y a encore toutes les communautés qui sont à Belleville qui vont dans le même café, ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais vous devez être très malheureux en ce moment, alors, de ne plus pouvoir aller écrire dans les cafés.
Je télétravaille à la maison, si vous voulez, parce que moi, mon lieu de travail, c'est... Je suis un écrivain de café. Quand j'avais 6 ans, j'ai rencontré un poète du groupe surréaliste qui s'appelait Achille Chavet en Belgique. Il est très célèbre, malheureusement pas assez en France, et qui était vraiment un écrivain de café, qui écrivait d'ailleurs sur les petits cartons, hein, qui sont sur les tables. Et moi, j'avais été fasciné, adolescent, par lui. C'est lui qui m'a donné envie de prendre un carnet, d'aller m'asseoir au milieu des gens, dans cette sorte d'électricité, d'adrénaline des autres. Moi, j'adore prendre... C'est pas que je vais voler la conversation de mes voisins, hein, mais j'adore les infimes détails. L'autre fois, j'étais à Paris dans un café qui s'appelle L'Amnésie passagère. Je trouvais déjà magnifique. C'est un titre de poème. Et il y avait deux personnes à côté de moi, une qui disait à l'autre « Mais si, je t'avais dit... » Et l'autre qui dit « Je ne me souviens plus. » Donc, l'amnésie passagère était bien là. Et voilà, un détail comme ça, aussi infime, va m'inspirer un poème.
Et vous disiez, je travaille dans les cafés, on a évoqué le mouvement, on va revenir sur cette mécanique, aussi la musique que vous pouvez écouter en écrivant, mais on évoquait la jeunesse, l'enfance, l'envie de devenir poète, même si on voit que ce n'est pas forcément une définition figée. Comment est-ce qu'on apprend à écrire de la poésie? Comment est-ce que il y a quelque chose de très très mystérieux là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'un poème nous touche, nous émeut, nous bouleverse? Il y a quelque chose qui est assez difficile à décrire en tant que lecteur. Comment est-ce qu'on sait ça en tant que poète? Comment est-ce qu'on s'améliore en tant que poète?
Ah, ça c'est une bonne question, parce que finalement il n'y a pas d'école. L'école, c'est la vie en quelque sorte, hein. Moi, j'ai compris que c'était en voyageant que les choses se feraient, parce que je serais confronté à d'autres personnes, mais aussi à d'autres paysages, à d'autres odeurs, à d'autres touchés, hein, donc par tous les sens. Et chacun va trouver, peut-être que quelqu'un va retourner quand même encore dans sa tour d'ivoire. Quelqu'un d'autre va peut-être aller en slameur dans les rues pour déclamer ses mots et voir un peu ceux qui peuvent toucher les autres. Moi, c'était partir sur les chemins, ça c'était clair. Le premier voyage, ça a très mal passé, hein, j'avais une bonne vingtaine d'années, des longs cheveux, hein, c'est difficile à croire, mais ça s'est passé autrefois.
Je vous imagine très bien.
Ah bon, mais c'est gentil de votre part. Et donc, je suis parti au nord de l'Inde pour passer au Tibet, avec dans la poche un livre magnifique qui s'appelle « Tibet » de Victor Segalen. Et voilà, je me suis dit, je vais faire comme Monsieur Segalen. Hein, je vais aller en haut des cols, moi qui viens du plat pays. Et quand je vais voir les grands paysages, peut-être que je vais trouver ce poème que je cherchais partout. Et évidemment, je ne l'ai pas trouvé, même si je suis large d'épaule. Je n'ai pas pu brasser cet immense paysage. Par contre, ce jour-là, en fait, j'ai vu une femme qui est en train de se peindre, de se peigner les cheveux avec du beurre de yak, hein, qui fait luire les cheveux au soleil. Ensuite, j'ai passé un moment avec un monsieur qui avait vraiment des pattes d'oiseau de rides au coin des yeux, mais qui était... C'était beau comme, comme un parchemin. On avait l'impression que toute sa sagesse était là au coin des yeux, qu'on avait envie de saisir, de lui voler une poignée de rides pour avoir un tout petit peu de sa lucidité sur le monde. Et là, je me suis dit, voilà, tu as été si loin de ton pays, là-bas. Je suis passé d'ailleurs en cachette au Tibet pour savoir que c'est sur les gens que tu vas rencontrer dans la rue que tu vas écrire. Et pour moi, ça, c'était vraiment la rencontre la plus fondamentale.
Et vous y êtes retourné plusieurs fois en Inde. Où en est le sentiment de l'Inde ?
Vous êtes vraiment très, très bien renseignée, Sonia. Parce que là, vous me parlez d'un livre qui existe virtuellement depuis 10 ans. Hein, j'ai fait à peu près 5 voyages en Inde pour le terminer. Hein, donc, il y a déjà 200 poèmes qui sont sur l'Inde. Pour le moment, d'ailleurs, le dernier voyage, c'était aller à Varanasi, donc Benares, où les gens, d'ailleurs, ça peut paraître fort triste, puisqu'ils viennent pour mourir là. Et donc, on voit des vieillards très proches du basculement de l'autre côté de l'écran de la vie, mais qui ont un regard extrêmement clair et un sourire, parce que si vous mourrez à cet endroit précis, Shiva vous donne le mot de passe de votre réincarnation. Et donc, si vous y croyez et que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à fermer les yeux doucement et attendre de revivre. Et donc, moi, j'ai été parler avec ces gens. J'ai été aussi essayer de les photographier avec des mots, parce que c'est ce que j'essaye de faire, d'être un portraitiste en quelques phrases. Et donc, là, voilà, il y a une 40-45 personnes comme ça qui se retrouvent dans ce livre que j'espère terminer cette année. Bientôt. Ou l'année prochaine. Vous êtes la première à en parler, en tout cas. Voilà.
On parlait des lieux, on parlait des voyages. Vous êtes installé à Ostende depuis peu de temps, après avoir vécu dans le Loiret, en France. Qu'est-ce qui se joue à Ostende ? Est-ce que ça a changé, justement, votre façon d'écrire ? Ou en tout cas, est-ce que ça a un impact sur vos poèmes ?
Tout à fait. Hein. D'ailleurs, bon, y a un livre là qui paraît, qui s'appelle donc un verre d'eau glacée aux éditions Le Taillis-Pré, qui est mon journal intime de ma première année à Ostende. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que je fais un recueil sur si peu de mois. D'habitude, je mets plusieurs années. Parce qu'évidemment, revenir dans son pays après 20 ans dans le Loiret, c'est pas quelque chose d'innocent. Hein. Moi, je pense d'ailleurs qu'on est davantage belge quand on s'absente, parce qu'on est loin des petits calculs politiciens. Donc, on regarde l'actualité française, hein, qui a ses bons et mauvais côtés également, n'est-ce pas ? Et puis, quand on rentre au pays, moi, j'avais choisi de toute façon... Les gens pensent que je suis rentré parce qu'on m'a demandé d'être poète national. Hein, c'est pas moi qui ai brigué ce poste. Mais en réalité, j'avais déjà mis la maison en vente. J'avais envie d'habiter en Flandre. Évidemment, il y a Ostende est une ville assez merveilleuse. Moi, j'ai écrit dans un café où venait écrire Stefan Zweig en 1936. Il y a sa photo à côté de la table. Souvent, il y a Arnaud à la table d'à côté qui est en train d'imaginer ses chansons. Je ne le dérange pas, il ne me connaît pas. Hein, donc, il y a aussi évidemment la magie d'arpenter la digue, d'être dans le vent de la mer. C'est une image très romantique et qui peut paraître un peu cliché, mais elle est extrêmement efficace, évidemment. Quand vous êtes devant la mer, vous n'avez plus absolument aucune limite. Et aussi peut-être dans le poème que vous allez tenter d'écrire. Mais j'avais vraiment une volonté d'aller dans l'autre Belgique, j'apprends le néerlandais d'ailleurs, d'essayer vraiment de connaître mon pays par tous les angles. Et donc d'aller vivre en Ostendais. D'ailleurs, ça, c'est un mot que personne ne connaît à Paris, mais je suis un Angespoeld. Ça, c'est de l'ostendais. Ils m'ont donné un dictionnaire d'ostendais. J'ai dit, excusez-moi, je vais d'abord apprendre le néerlandais. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un ostendais d'origine, ce qui était James Sansor, d'ailleurs, le célèbre peintre, qui maintenant incarne Ostende, mais au début, on ne l'aimait pas parce qu'il avait un nom anglais. Quand même. James Sansor, ça ne fait pas très, très ostendais. Et donc, Angespoeld, ça veut dire celui qui est arrivé assis sur la dernière vague venant de la mer. Et donc, évidemment, pour eux, c'est une image assez moqueuse. Mais quand on me demande maintenant de me définir quand je suis en Flandre, je dis Angespoeld. Parce que j'aime bien l'idée que je suis arrivé un jour sur une vague et que je me suis posée là pour partir à la recherche d'un nouveau poème.
Et que vient faire Marvin Gaye dans tout ça ?
Ah, Marvin Gaye, c'est un peu la musique de l'âme. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme moi, quand je suis à la maison, j'ai besoin d'écrire en musique. J'ai beaucoup de chance, hein, d'ailleurs, parce que j'ai pu écrire des textes qui sont un peu entre livrets et poèmes, à la fois pour le théâtre du Châtelet, l'opéra de Lyon, l'opéra comique. Là, normalement, en avril, un carnaval des animaux sud-américains à la Philharmonie de Paris. Et quand je suis à la maison, le silence ne me parle pas, si vous voulez. Et donc, j'écoute, pour le moment, c'est un groupe qui s'appelle Tinderstick. Alors, quelquefois, je peux écouter des choses même très, très bruyantes pour écrire un poème tendre. Il faut quelquefois chercher un petit peu le paradoxe. Et souvent, depuis toujours, il y a Marvin Gaye. Alors, moi, quand j'étais adolescent, j'allais déjà me balader à Ostende. Et un jour, je l'ai vu, puisque les gens ne le savent pas toujours, mais il a vécu plusieurs années à Ostende. Il aurait dû y rester parce que malheureusement, quand il est retourné aux États-Unis, il s'est fait assassiner par son propre père pasteur. Et moi, je l'ai simplement croisé dans la rue. Hein, mais quelquefois, voilà, juste un regard est quelque chose qui vous emmène ailleurs. Et je trouve que la musique soul, hein, qui veut dire l'âme, est quelque chose qui amène très, très naturellement à la poésie parce que on a vraiment l'impression qu'il y a un souffle poétique dans cette musique, en même temps qu'elle nous donne envie de faire les mots un peu plus dansants.
Mais justement, c'est la musique qui vient accompagner les mots. Est-ce qu'il arrive que la musique vous inspire directement ? C'est-à-dire que de la musique naît un poème ?
Oui, d'ailleurs, dans les textes que je dois écrire à propos de compositeurs, c'est comme ça. Hein, c'est-à-dire, quand j'ai fait avec François Morel et Eric Satie, il m'a fallu 6 mois pour mettre des mots sur la musique d'Eric Satie. Hein, c'est d'ailleurs quand j'ai su qu'il s'envoyait des lettres à lui-même et qu'il les postait vraiment pour prendre de ses nouvelles que j'ai eu l'impression d'avoir reçu une de ses lettres et d'entrer en connexion. Au bout d'un moment, vous écoutez tellement une musique que vous devenez poreux. Hein, et qu'à un moment donné, il y a un aller-retour. C'est-à-dire vous entrez dans cette musique, elle entre en vous. Et quand il y a ce balayement, si vous voulez, d'un aller-retour, à ce moment-là, les mots viennent et peut-être auront-ils la chance d'être justes.
On va parler de ce livre sur Eric Satie, également de vos livres jeunesse. Mais on parlait tout à l'heure de l'impact que peut avoir un poème, de ce qui fait qu'il peut nous émouvoir. Est-ce qu'on... On est surpris parfois de l'effet que peut faire un poème. Vous l'avez expérimenté, je crois, cette surprise, ou en tout cas, j'imagine, une surprise renouvelée, notamment avec le projet Fleur de Funérailles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce projet ?
Oui, donc ça, c'était un projet important l'an dernier. C'est-à-dire que quand j'ai vu les enterrements qui étaient vraiment solitaires, c'est venu d'ailleurs d'un ami qui habite en Italie, qui m'a dit « Voilà, je vois passer des enterrements et il n'y a personne ». Et dans ce pays qui incarne l'esprit de la famille, je me suis dit, ça va arriver en France, ça va arriver dans mon pays, la Belgique. Et donc, j'ai demandé à des poètes des trois langues, en fait, 90, on va dire 90, puisque nous sommes à Paris, qui tout de suite ont été d'accord avec moi de créer une sorte de collectif. Et alors, on a écrit environ 150 poèmes personnalisés, c'est-à-dire qu'une famille, c'est encore arrivé la semaine dernière, hein. Donc une famille nous contacte pour la mort d'un de leurs proches. Et alors, par contact téléphonique avec cette famille, on compose un poème qui est destiné à être lu lors de la cérémonie. Et là, d'ailleurs, j'ai vu à quel point ça avait été important. Parce que si vous voulez, moi, au départ, j'ai dit, c'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Hein. Ce n'est pas un rituel, ça ne va pas consoler les gens de ces morts terribles. Le premier coup de fil que j'ai fait avec une famille, on nous a dit venez chercher l'urne. On n'a même pas assisté à la crémation elle-même. On a eu juste une urne. On n'a pas pu poser nos doigts sur les paupières de notre père. Et donc, il y a quelque chose, évidemment, qui était profondément triste. Mais les gens nous écrivent après des lettres qui ne sont pas tristes parce qu'ils nous disent... Ben, en quelque sorte, notre parent, premièrement, n'est plus une statistique au JT. Hein, il n'est plus simplement un chiffre parmi d'autres sur les morts du jour. Et c'est vraiment lui qui est dans son poème. Et puis, il y a une chercheuse à l'Université de Louvain qui, du coup, a écrit une étude par rapport à cette action. dont on a parlé d'ailleurs un peu partout en Europe. Il se fait qu'en Espagne, on a traduit des poèmes en espagnol et nos poèmes ont été utilisés dans d'autres pays, en Bretagne aussi par exemple, en France. On a eu des vidéos, des échos. Et cette chercheuse, ce qu'elle a dit, c'est qu'en anthropologie, ce qui sépare l'homme de l'animal, on dit que c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, c'est le fait qu'on accompagne nos morts par un rituel. L'humain a cette particularité. Et si on nous enlève ça, on nous enlève vraiment une part d'humanité. Et c'est pour ça que ce poème a eu un effet plus important que moi, je ne le pensais. Et voilà, il y a encore des poètes belges qui m'ont dit la semaine dernière, on ne savait pas qu'un poème pouvait servir vraiment à quelque chose, hein, puisqu'on a un festival qui parle du réalisme, hein, qu'un poème puisse être à ce point dans la vie, à un moment d'ailleurs crucial de la vie. Hein, je viens d'écrire un poème sur la naissance d'un enfant. C'est quelque chose qu'on fait. D'ailleurs, chez les Inuits, on écrit un poème à la naissance d'un enfant et il est sa propriété toute sa vie. Il le lègue après à quelqu'un d'autre s'il veut.
C'est beau. C'est très beau. Vous parlez de l'enfance, ça tombe bien. Je disais, vous avez écrit de nombreux livres pour la jeunesse. Pourquoi avoir choisi l'écriture pour la jeunesse? Parce que justement, c'est quelque chose qui est très proche de la poésie, cette écriture.
Ben moi, j'ai toujours voulu faire poète dans la vie. Hein, et donc, mon père, qui a pourtant publié de nombreux livres, il a été enseignant quand même toute sa carrière. Donc il y a une grande difficulté à arriver à vivre uniquement de sa poésie. Moi, je me suis dirigé vers le livre pour enfants parce qu'effectivement, c'est le genre qui me paraît le plus proche du poème. Vous n'avez pas beaucoup de mots. Pour moi, un album, c'est déjà long. Hein. Moi, je suis un coureur de 100 mètres, j'ai le souffle court. L'autre fois, il y a une journaliste, assez connue d'ailleurs, mais qui m'a dit une chose bizarre. Elle m'a dit « Vous êtes mûr pour le roman ».
Hein, parce que c'est comme si c'était forcément des étapes et que c'était
voilà,
en dessous.
Voilà, comme si
et
moi j'ai construit un beau petit bateau de papier qui commence à voguer, mais faites un paquebot maintenant, n'est-ce pas? Et voilà, pourquoi on demanderait à un coureur de 400 mètres d'être marathonien, en fait? Donc voilà, moi c'est ma respiration qui est comme ça. Et donc, dans la littérature pour la jeunesse, il y a aussi beaucoup de jeux sur les mots et la musicalité, parce qu'on doit penser à la voix de l'enfant dans sa tête quand il lit l'histoire, à la voix de la maman peut-être qui va lui lire l'histoire. Donc, il y a ce pouvoir d'oralité qui est quelque chose de fondamental dans la poésie. L'autre fois, j'étais au Sénégal et ils m'ont dit en Wolof, le mot poème veut dire parole aussi. Donc, c'est la même source. Donc, l'oralité est inscrite dans le mot poème lui-même, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réel. Donc, l'économie des moyens et aussi le basculement vers l'imaginaire, parce que, justement, un poème vacille ou oscille plutôt entre réalité et imagination, hein, pour dire le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'on le rêve, tel qu'on a envie de le réenchanter. Et je pense que dans un album pour enfants, il y a à peu près toutes ces dimensions-là, que l'histoire d'ailleurs soit triste ou pas. Hein. Je viens de faire une histoire inspirée par l'Amérique qui ressemble à une comédie américaine, qui s'appelle Lucky Joe. Et là, il y a un merveilleux happy end après tous les ennuis et un méchant rhinocéros qui s'appelle Strum d'ailleurs. Hein. Donc, je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les rhinocéros pour cette comparaison un peu étrange. Et donc voilà, le livre pour enfants, en même temps, est le genre littéraire qui s'est le plus développé depuis 30 ans. Il commence à avoir une reconnaissance qu'il n'avait pas. Et si vous écrivez aujourd'hui un poème, vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais innover, enfin, je vais écrire sur un ton qui n'a jamais été utilisé par un autre poète. Ce serait extrêmement prétentieux. Par contre, dans le livre pour enfants, il y a encore une terra incognita, il y a encore si c'était une forêt, il y a encore quelques drèves, quelques clairières qui ont été à peine découvertes. Par exemple, quand j'ai écrit un livre pour enfants sur Astor Piazzolla, par exemple, ben, on m'a dit que c'est le premier livre pour enfants dédié à Astor Piazzolla ou Monteverdi, ou Eric Satie, ce sont des choses qui ont été très rarement, des thématiques, si vous voulez, qui ont été très rarement prises en compte par un auteur pour essayer d'aller à la rencontre des enfants avec cet univers-là.
Et cela permet aussi, on peut aussi le faire dans des textes pour adultes, mais peut-être pas avec le même amusement ou le même impact, d'inventer des mots. Vous évoquiez le livre sur Eric Satie, on retrouve le verbe « kangouriser », je crois, ou « sauterelle ». C'est aussi un jeu vraiment, la poésie, c'est aussi un amour des mots, le goût des mots et de jouer avec, parce que quand on invente des mots, il y a vraiment cette dimension de jeu.
Oui, d'ailleurs, quand je vais dans les écoles, ça leur plaît beaucoup, hein, parce que quelquefois, ils inventent un mot, alors ils regardent la maîtresse, on dirait de dire, tiens, mais si on regarde dans le dictionnaire, mais je leur dis, ben voilà, vous avez cette liberté-là. Hein, c'est ça qu'on essaie d'enseigner, c'est la libre parole, à la fois sur le sens qu'on a à donner, parce que les enfants ont beaucoup de choses à nous exprimer. D'ailleurs, pour le moment, je reçois beaucoup de poèmes d'ados qui disent, je veux contribuer à vos fleurs de funérailles, j'ai écrit aussi. Donc, c'est très touchant, d'ailleurs, de voir chez ces jeunes, ils veulent pour des gens, d'ailleurs, souvent assez âgés, qui vont mourir du Covid, apporter un peu leur pierre à l'édifice. C'est très touchant, un peu, tous ces courriers de jeunes qui reviennent de plus en plus à la poésie, parce qu'aussi la poésie va davantage vers eux. Hein. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de poètes, et en particulier de poétesses, hein, que ce soit en France, avec Florentine Ray, Cécile Coulon, je pourrais faire une longue liste. La France, aujourd'hui, a une très grande génération de jeunes femmes de votre âge qui sont la relève de la poésie. En Flandre aussi et du côté francophone en Belgique, il y a vraiment une nouvelle génération où la poésie reste complexe, hein, elle reste quelque chose d'un peu secret, dont on ne comprendra pas toujours tout. Un poème qui n'aurait pas ses propres mystères et ses propres silences serait un petit peu inquiétant, parce qu'à ce moment-là, il serait un peu plus proche du discours. Mais on voit vraiment un retour de la poésie et d'une poésie qui pourrait se partager un peu comme le pain. Ça s'appelle, moi, j'aime bien ce geste autrefois un peu paysan. On avait le pain et on le rompait. Et pour moi, le poème idéal, ce serait ça. Premièrement, il aurait quelque chose de tactile. On pourrait presque en saisir les images et on pourrait, d'une certaine façon, le rompre pour qu'il soit nourriture aussi pour les autres.
Est-ce que ça va dans ce sens ? J'ai remarqué que vous employez volontiers le « tu » dans vos poèmes. C'est aussi cette idée de chuchoter à l'oreille du lecteur, ou en tout cas d'être dans cette proximité ?
Ben, c'est vrai que on s'adresse à un lecteur ou une lectrice invisible. Moi, souvent, c'est une petite fille, peut-être parce que maintenant, j'ai une grande fille de 20 ans, mais j'ai beaucoup écrit en pensant à elle. Et pour moi, c'est un peu la môme, quoi. D'ailleurs, c'est une petite fille parisienne, un peu comme on voyait dans les films ou dans les textes de Raymond Queneau. Hein, donc voilà, c'est une petite fille espiègle qui est poétesse et à qui je m'adresse d'une certaine façon. Je crois que le fait de quelquefois de dire tu, d'aller chercher, y compris d'ailleurs dans les poèmes qui paraissent dans la presse, d'aller chercher l'autre, de lui dire je suis en train de te parler, et derrière la page et ses signes inscrits, il y a un visage. Hein. D'ailleurs, moi-même, quand je lis de la poésie, je cherche un visage derrière les mots.
Vous parliez de la presse, du fait d'interpeller le lecteur. Ce n'est pas forcément évident quand on publie dans un journal, je le disais, que les gens déjà s'arrêtent pour lire ce poème, pour prendre le temps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous avait expliqué quand vous aviez publié votre tout premier poème dans Le Figaro, je crois. Cette idée qu'il y aurait peut-être 10 millions de lecteurs qui allaient le voir passer, peut-être, je ne sais plus les chiffres, 10 000 qui allaient vraiment le lire, peut-être 100 qui allaient être touchés, peut-être 1 qui allait acheter le recueil. J'ai dit complètement des chiffres au hasard, ça ne doit pas du tout être ça l'anecdote, mais,
non,
mais
la, c'est l'anecdote, l'esprit. C'était un grand poète qui s'appelait Alain Bosquet, hein, et qui était très très important à Paris sur la scène poétique, et qui a eu cette particularité d'être né russe, Anatole Binsky, d'arriver avec son père, traducteur de Tolstoï, en Belgique, ensuite de partir avec André Breton aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, se faire naturaliser américain, revenir comme soldat américain et devenir un poète français très, très connu. Et alors, en Belgique, il y a toujours des gens qui vont lire votre poésie et essayer de l'envoyer à Paris, parce qu'on a besoin quand même de pouvoir sortir de notre frontière. Et à l'époque, c'était trois dames merveilleuses par leur forte personnalité qui s'appelaient Claire Lejeune, André Zodenkamp et Liliane Wouters. Et elles ont envoyé les poèmes à M. Bosquet qui, quand il aimait, à ce moment-là, était un homme vraiment merveilleux qui prenait le temps de faire éditer. Moi, j'ai pu être édité aux éditions La Différence, qui est un très, très bon éditeur de poésie, malheureusement, qui n'existe plus. C'était grâce à Alain Bosquet. Et la première fois, j'habitais toujours en Belgique, il m'appelle très tôt le matin. J'étais pas très bien réveillé. D'ailleurs, je pensais que c'était une blague. Il avait une voix un peu comme ça, voyez-vous. Et il m'a dit, puis-je m'occuper de vous? Je dis, certes, monsieur Bosquet. Il me dit, vous irez acheter le Figaro, ce qui est compliqué dans un village de Belgique. D'ailleurs, il y a Le Soir ou La Libre Belgique. Parce que je leur ai demandé de vous mettre un poème. Et effectivement, vous serez... Alors là, il me donne le tirage du Figaro. Mais après, il me dit, bon, évidemment, 10 000 l'apercevront, 1 000 le liront, 100 le comprendront vraiment, 10 en comprendront le sens caché et se diront, il faut que j'achète ce livre de poésie, et 1 le fera. Il me dit, je vous appelle de Paris pour dire, vous allez vendre un livre de poésie aujourd'hui. Alors évidemment, c'est très important parce que, vous voyez, j'avais écrit un livre qui s'appelle Métropolitaine où pendant plusieurs mois, j'étais dans le métro de Paris écrire sur la première dame qui était devant moi en entrant. Donc écrire sur la passante, c'était un jeu un petit peu oulipien. J'aime beaucoup le mouvement oulipo. Et j'ai eu la chance que la RATP a pris ce livre et l'a exposé pendant un mois dans toutes les rames de Paris. J'ai eu, grâce au Printemps des Poètes, non seulement Sandrine Bonner a enregistré un de mes poèmes dans le métro de Paris l'an dernier, mais il y avait un de mes poèmes dans chaque station. Et là, vous avez, pour la première fois de votre vie, vous avez la sensation que même un regard un peu impatient ou juste un effleurement du regard fait que vos mots vont quand même avoir un destin tout à fait particulier.
Et ce qui est fort, c'est que vous disiez les personnes vont comprendre le poème, mais ce qui est très fort avec la poésie, c'est que parfois, on ne comprend pas forcément. Et on est pourtant marqué par les mots, touché par les mots. On évoquait les livres pour enfants, il y a des livres jeunesse, il y a aussi des livres de poésie pour enfants, notamment le très très beau que je conseille à tout le monde, Poème pour mieux rêver, c'est aux éditions Actes Sud Junior. Il y a vraiment ça de se dire quand on écrit ou en tout cas aussi quand on lit qu'il n'y a pas besoin de comprendre pour être touché, pour être ému.
Alors oui et non, c'est-à-dire que pendant, si vous voulez, en particulier en France, parce que dans la tradition par exemple anglo-saxonne, la part de récit dans le poème n'a jamais été complètement abandonnée. En France, il y a eu de plus grandes expérimentations, notamment plusieurs décennies où en quelque sorte le poète allait vers l'art abstrait. Et l'art abstrait, c'est vraiment un des arts les plus fantastiques. Mais en poésie, dès le moment où il n'y a plus que le silence qui nous parle et que les mots sont extrêmement savants ou dans un tel ballet entre eux que même moi, d'ailleurs, quelquefois qui lis des poèmes tous les jours depuis quelques décennies, je n'y comprenais rien, évidemment, ça peut éloigner les gens de la poésie. Ça devient de la pure expérimentation. En même temps, il faut faire attention à ne pas vouloir être compris à tout prix. Il y avait un grand poète belge qui s'appelait Jacques Isoard, qui était professeur, un grand poète liégeois, et qui me disait, moi je lis un poème, il travaillait en banlieue, vraiment dans un collège de banlieue, je leur lis mes poèmes préférés, quelquefois ça va passer un petit peu au-dessus de leur tête, mais je leur dis, vous n'aurez aucune explication, mais je fais comme rituel d'ouvrir chacun de mes cours par la lecture d'un poème. Et il m'a dit, si jamais j'oubliais, il m'arrêtait, il me disait, nous voulons le poème. Et donc, au bout d'un moment, ils allaient chercher, à leur façon, une certaine teneur. Et il faut un juste équilibre. Si vous voulez, un poète, il est sur un fil. Si vous allez un peu à droite, vous êtes mièvre, vous êtes vraiment, voilà, vous tombez dans le cliché, dans la facilité ou dans la rime facile. Si vous allez de l'autre côté, ben peut-être que vous allez rentrer dans la nuit dont je parlais de Cocteau, mais rentrer dans la part d'ombre et peut-être au bout d'un moment dans un tunnel un peu trop obscur. Et donc voilà, c'est tout le travail du poète. Et ça, c'est le travail d'une vie, au moins d'une vie. D'ailleurs, pour aller vers une certaine simplicité, moi, j'ai deux phrases dans mon atelier. J'ai une petite carte de la main de Samuel Beckett, qui est mon idole. Et d'ailleurs, c'est ici à Paris qu'il avait écrit. Il avait écrit « Ne pas me déranger, je suis en train de répéter en entendant Godot ». Donc moi, j'ai ça écrit de sa main, je l'ai mis pour dire « Tiens, il faut me laisser tranquille ». Et alors, j'ai quelques phrases d'Okusai, le grand peintre japonais, qui décrivait décennie par décennie son projet artistique, est très optimiste. Il dit « quand j'aurai 110 ans, un point et une ligne voudront dire quelque chose ». Donc en fait, en poésie, c'est la même chose. Va-t-on aller dans son chemin poétique vers quelque chose à complexifier de plus en plus, ou alors essayer d'aller vers une forme de transparence? C'est pour ça d'ailleurs que ce livre a un titre curieux, parce que c'est un verre d'eau glacée, donc c'est quelque chose qui est vraiment qui va à l'élémentaire. Et ça, c'est vraiment une quête pour moi, qui est d'autant plus forte que le fait que je côtoie par ailleurs les enfants pour écrire. Quand j'écris pour les adultes, je vais chercher quelque chose de cette part d'enfance qui est en moi et qui est aussi dans le regard des autres.
Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant qu'adulte, on peut très bien lire ces poèmes que j'évoquais en étant touché. Ce que j'évoquais par le mot comprendre, c'était aussi pas forcément le fait d'avoir quelque chose de pas clair ou de complexe, mais l'idée que parfois on comprend les mots, on comprend ce qui est raconté, mais on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi ça nous touche autant. C'est peut-être surtout ça, en fait, qui est mystérieux. Et dans ces poèmes pour enfants, il y a quelque chose de très simple, vous l'avez dit, et qui en même temps, sur beaucoup de poèmes, moi, m'ont beaucoup, beaucoup touché, et sans réussir à expliquer simplement pourquoi, en fait. Et donc, c'était pas de comprendre ce qui était raconté, mais plus de comprendre l'impact que ça peut avoir.
Oui, d'ailleurs, il y a un phénomène qui est tout à fait nouveau, hein, que beaucoup de poètes ont certainement remarqué, en particulier ceux qui écrivent pour la jeunesse, c'est qu'il y a énormément d'adultes qui achètent des livres pour la jeunesse, pour la beauté aussi esthétique, hein, parce que d'ailleurs, c'est en France et en Belgique qu'on fait les plus beaux livres. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais tous les ans, j'allais à Bologne et vraiment, le livre français et le livre belge est traduit dans le monde entier pour la qualité esthétique de ses illustrations.
Et d'ailleurs, du coup, j'en profite juste pour citer Géraldine Alibeux, qui fait les dessins de ses poèmes pour mieux rêver aux éditions Actes Sud Junior.
Voilà, d'ailleurs, très, ce livre-là, on a mis un an à le faire, et pour que ce soit bien lent, parfois j'ai écrit d'après son dessin, parfois elle a fait le dessin, on a vraiment essayé de le faire ensemble, et après elle dit je les ai dessinés mais maintenant je vais les coudre. Et quand on regarde le livre, en fait, elle a pris le temps et on a voulu faire cette manière lente, justement cette autre petite volupté de la lenteur en faisant ce livre là alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui vont chercher la poésie pour la jeunesse, et ça doit nous interpeller. En particulier, tout à l'heure, je me dis, tiens, je vais lire quand même un poème qui parle d'espoir. Je pourrais plus en vous lire des poèmes qui sont quand même beaucoup plus durs. Mais on a un petit peu besoin de ça. Et c'est vrai, moi, quand j'étais à Orléans, j'étais dans un comité de lecture pour la scène nationale au niveau des textes de théâtre contemporain. On va souvent de désespoir en désespoir, quoi. Je veux dire, le monde, c'est normal, hein, l'homme de théâtre va chercher dans la rue ce qui grince, ce qui se tord, et l'amène sur la scène. Mais alors, après, quand le lecteur, lui, il veut aller chercher un ray de lumière, quelquefois, il va aller peut-être chercher dans un livre pour enfants, parce que là, moi, par exemple, dans le livre dont vous parlez, il y a des poèmes qui sont inspirés par le fameux terrible vendredi d'attentat à Paris, parce que j'étais là le lendemain, place de la République, et je voyais les gens qui commençaient à sortir, et y compris les enfants avec des parents assez courageux qui disaient « on va faire les courses quand même ». Et donc j'ai écrit trois poèmes sur ces gens qui passaient. Mais j'essaye de trouver un angle qui ne soit pas désespérant, hein. Mais c'est pas parce que vous écrivez pour les enfants que vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose parfois qui est même très très sévère, hein. Je pense c'est la façon dont vous allez porter un angle, hein. C'est un peu comme le photographe, hein. La photographie, c'est quel angle, quel focal, quelle façon d'aller capter quelque chose de la lumière peut-on essayer de produire.
Et une fois que vous avez cet angle, comment est-ce que vous travaillez vos poèmes? Tout à l'heure, on évoquait une direction qui peut être celle d'aller vers une certaine simplicité, quelque chose qui n'est pas forcément immédiat. Comment est-ce que arrivent ces poèmes? Est-ce que les poèmes tels qu'on les lit, c'est tels qu'ils arrivent sous votre main qui danse? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à cette forme qui paraît tout à fait limpide et où on a l'impression que c'est quelque chose qui est soufflé d'un souffle? Alors que, voilà, on sait très bien que pour avoir une apparente simplicité, une fluidité, il peut y avoir beaucoup de travail derrière.
La première chose, c'est qu'il ne faut pas tricher. Hein. C'est-à-dire que même quand vous écrivez un poème pour les enfants, bien sûr, vous pouvez avoir l'image de cette petite fille ou de ce garçon qui va vous écouter. Mais il faut attendre le moment où il va y avoir un petit jaillissement qui est très, très bref. Pour moi, c'est un petit peu comme si quelqu'un arrivait, faisait trois tours en dansant et puis s'en va. Hein, donc, il faut aller capter ce moment qui est extrêmement, extrêmement éphémère et qui, parfois, étrangement, produit un poème sur lequel on n'a pas envie de faire quelques travail, parce qu'on a l'impression qu'il est arrivé comme il doit être. Il faut faire attention de ne pas chercher la perle à tout prix, parce que la perle, c'est très beau, mais c'est ennuyeux. Si en poésie, on ne faisait que des perles, moi, pendant tout un moment, j'étais extrêmement influencé par René Char, qui arrive à faire un aphorisme à chaque vers. Et quand on tente ça, René Char est un génie, il est arrivé. Mais c'est comme si on oubliait l'huître et l'âpreté de l'huître. C'est comme si on oubliait la mer elle-même pour essayer de trouver quelque chose de diaphane ou de brillant qui serait cette perle à chaque point, à chaque trois petits points et virgules. Et donc, non, il faut retourner vers la matière des mots. Moi, il y a des poèmes que je travaille très longtemps, qui ont de nombreuses versions, et d'autres qui vous arrivent un peu par surprise, comme quelqu'un qu'on n'attendait pas, et puis qui déboule dans la rue devant vous et que vous allez vous mettre à connaître vraiment. Et donc, c'est très, très variable. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu inexplicable et secret, même quand on écrit pour enfants, parce que... Autrefois, d'ailleurs, on me disait, vous écrivez pour enfants, mais quel est l'objectif didactique ? Hein, l'objectif didactique, c'est aimer la poésie, c'est partager la poésie.
Qu'est-ce qu'on apprend ?
Après, on apprend plein de choses sur soi, déjà. Hein, mais aujourd'hui, moi, j'ai eu un basculement, parce que si vous voulez, j'ai défendu depuis très longtemps le droit qu'un poète pour la jeunesse n'ait pas besoin d'avoir le moindre thème, c'est-à-dire qu'il puisse laisser affleurer ce petit mystère qui va devenir son poème sans avoir aucune obligation. Il peut être dans la rue avec les autres, il peut être dans son coin et parler même de ses propres sentiments de solitude s'il veut. Mais en même temps, on est dans un monde qui va tellement mal que dès le moment où vous avez certaines valeurs que vous portez et que vos livres vont être publiés, peut-être même vont avoir la chance de courir un peu les rues et se retrouver sur une affiche. Moi, je me sens vraiment aujourd'hui le besoin de parler de ce que je ressens et de ce que je crois. Hein. Et il y a un livre qui va paraître qui s'appelle « Petit poème pour y aller ». Hein. Donc, ce sera aux éditions Pastel, l'école des loisirs, dans un an, une centaine de poèmes. Et là, je parle beaucoup de la vie aujourd'hui, je parle beaucoup d'écologie. Il ne s'agit pas de donner la leçon aux enfants, mais de transmettre quelque chose qui est derrière plusieurs parois et paliers intérieurs, quelques paysages que nous avons au fond de nous et qu'il faut laisser un peu sortir et affleurer.
Puis on a déjà hâte, en tout cas moi j'ai déjà hâte de découvrir ce livre. Merci beaucoup Karl Norak. Je rappelle, Un verre d'eau glacée, c'est publié au Taillis-Pré, aux éditions Le Taillis-Pré. Et ce petit livre pour enfants, mais que je conseille également à tous les adultes, bien évidemment, Poème pour mieux rêver, aux éditions Actes Sud Union. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation, merci.